suis qu'un petit commerçant au cœur du centre-ville. Je suis libraire, je suis fleuriste, café ou restaurant. Mes clients viennent me voir, je les connais souvent. Je les conseille, je les comprends, je suis essentiel, vous pouvez me croire, je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Je suis artiste intermittent, théâtre ou salle des fêtes. Le public est ma raison d'être, je fais rêver les gens. Moi je suis le monde de la nuit, une boîte, une discothèque. Chez moi on s'enlève de la tête tous les soucis. Je suis essentiel, je suis essentiel, je suis essentiel. Ah, ah.
Nous sommes lundi matin, il est passé 8h de quelques minutes, et comme tous les lundis de 8h à 9h, enfin tous les premiers lundis du mois de 8h à 9h, c'est l'heure de Tous Essentiels, l'émission du Revenu de Base avec Virginie. Bonjour Virginie, ça va bien ?
Bonjour Max.
Et tu as un invité par téléphone, il me semble, qui s'appelle Guy. Bonjour Guy.
Bonjour.
Ça va bien ?
Ça va, parfait.
Alors d'où nous appelles-tu, dis-moi ?
Alors, je vous appelle de Gentilly, qui est une petite commune au sud de Paris.
Et alors, Guy, figure-toi que je le connais depuis 10 ans. Et c'est l'occasion de nous rappeler que c'est les 10 ans du mouvement français pour les revenus de base.
Oh.
Joyeux anniversaire, etc. Parce que Guy est cofondateur du MFRB, donc il a participé aussi à la structuration de la définition, etc. Et aujourd'hui, il est retraité, re-retraité, et il dit dans son livre « L'allocation universelle d'existence, la protection sociale du 21e siècle » que, en tant que retraité, aujourd'hui, il jette des bouteilles à la mer. Et donc, on va recevoir une de ces bouteilles à la mer. Donc, Guy Valette, je vais te demander d'abord de répondre à notre question rituelle. Imagine, à partir de demain, tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Ça tombe sur ton compte, à ton nom, il n'y a rien à faire, et c'est toute ta vie. Ou alors, si tu l'avais reçu avant, qu'est-ce que ça changerait pour toi, ou qu'est-ce que ça aurait changé pour toi ?
Eh bien, moi j'ai beaucoup de chance. Hein. J'ai été fonctionnaire de l'État toute ma vie, titulaire. Donc j'ai eu une espèce de revenu de base, en fait, qui a assuré mon existence sans que j'aie beaucoup de questions à me poser.
Oui, mais tu as travaillé pour ça, quand même.
Je suis à la retraite, j'ai une bonne retraite, j'ai un petit patrimoine. Donc tout ce qu'il faut pour vivre tranquillement. Mais je pense surtout à mes parents, mon père, ma mère, qui étaient artisans. Et qui se sont tués à la tâche. Mon père est mort à 59 ans d'un infarctus et ma mère n'a jamais eu quasiment de retraite puisqu'elle n'avait pas cotisé toute sa vie.
Oui.
Elle était travailleur bénévole auprès de mon père. Elle faisait le secrétariat et bon, voilà. Donc, ce qui fait qu'elle a dû continuer à travailler bien au-delà de l'âge légal de la retraite. Voilà. Donc, eux, s'ils avaient eu un revenu de base, hein, tous les deux, et leurs enfants aussi, eh bien, peut-être qu'ils auraient moins travaillé. Ils auraient pu prendre des vacances, qu'ils n'ont jamais quasiment fait. Ils auraient pu, les dimanches, ne pas travailler. Ils auraient pu peut-être prendre une personne pour s'occuper du secrétariat, ce qui aurait soulagé ma mère. Bref, ils auraient eu certainement une vie bien meilleure que ce qu'ils ont eu en réalité.
Et voilà. Peut-être même un peu plus longue pour ton père.
Et certainement, parce qu'il était très stressé, très fatigué à la fin de sa vie.
Bon, donc ça, je te remercie parce que ton témoignage donne aussi un sens à tout le travail que tu fais depuis des années autour de l'idée du revenu de base et d'une version particulière que je vais te proposer de présenter aujourd'hui, donc l'allocation universelle d'existence. Est-ce que tu peux nous dire d'abord, en fait, pourquoi, à ton avis, il faut une forme de revenu de base par rapport à aujourd'hui qu'est-ce qui te fait penser qu'on pourrait en avoir besoin ?
Eh bien, il faut faire un peu l'état des lieux de notre société. Jusqu'à présent, les droits humains fondamentaux qui sont définis par la Déclaration universelle de 1948, se nourrir, se loger, s'occuper de ses enfants, se déplacer, se vêtir correctement, tous ces droits sont aliénés à un autre droit, le droit à un emploi correctement rémunéré. Droit qui est loin d'être universel aujourd'hui, et c'est là que le bât blesse. La distribution de la richesse par la rémunération du travail, que ce soit en salaire et cotisation, est de plus en plus erratique. Trop souvent, pour assurer les conditions concrètes d'existence, on est contraint d'accepter un emploi qui ne nous valorise pas, qui peut être nocif pour soi ou destructeur pour l'environnement.
Les fameux bullshit jobs.
D'où l'impérieuse nécessité de dissocier droit imprescriptible à l'existence et droit à l'emploi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'avec le progrès technique, le système de production remplace les hommes par des machines de plus en plus sophistiquées, des algorithmes, de l'intelligence artificielle, ce qui exige de plus en plus de capitaux qui, à leur tour, exigent d'être bien rémunérés en intérêts et en dividendes. Rémunération qui ne participe pas à la hauteur des salaires, à la solidarité par les cotisations. Les recettes de la protection sociale qui assurent les droits à la retraite, à la santé, au chômage, bref, ce patrimoine commun que nous avons construit au cours de ce XXe siècle diminue. Et l'État, en complétant le financement, en prend le contrôle. Troisième point, devant les trous dans la raquette dans la distribution de la richesse par la rémunération du travail, l'État, crise après crise, et on l'a vu récemment, souvent en urgence, à ajouter des aides aux aides, des chèques aux chèques. Aujourd'hui, il existe plus de 50 aides différentes qui coûtent un bras au budget de l'État et qui ne réussissent pas à éradiquer la pauvreté. Ce sont des aides sociales qui sont ciblées, qui sont conditionnées aux revenus, à la situation familiale, qui sont stigmatisantes, qui sont complexes à mettre en œuvre et qui font que beaucoup ne les demande même pas. Aujourd'hui, 30% des ayants droit au RSA ne le demandent pas. Et qui ne font aides qui ne font que qu'assujettir les individus et qui divisent la société en citoyens de seconde classe, les ayants droit d'un côté et les contributeurs de l'autre. Véritable apartheid social où ceux qui réussissent s'arrogent le droit de dire aux perdants comment ils doivent dépenser le peu d'aide que l'État leur octroie. Tout cela pendant qu'une petite minorité fait sécession à coup d'optimisation fiscale.
Mais alors que ce que j'entends, c'est que donc, d'un côté, on devrait pouvoir se réjouir de devoir travailler moins, finalement, si on réussit à remplacer des milliers de personnes par un logiciel. C'est plutôt une bonne nouvelle dans l'absolu. Sauf que, du coup, ça sert plutôt à appauvrir encore plus, à faire dépendre encore plus certains d'autres, et en plus, à coup d'humiliation.
En fait, 4 décennies, on est passé d'un système de sécurité sociale qui était fondé sur le principe de solidarité à une protection sociale fondée sur la charité publique. C'est pas moi qui le dis, c'est Alain Supiot dans un article en juillet 2022.
C'est un sacré retour en arrière avec des effluves de patronalisme.
On a déconstruit notre système de sécurité sociale, cette caisse commune qui distribue des droits et non pas des aides. Alors, que faire maintenant?
Ben oui. Il paraît que tu as une proposition, une bouteille à la mer à nous faire goûter.
Voilà. C'est la grande question. Alors, que faire quand cette distribution de la richesse par le travail est de plus en plus erratique, que l'insécurité sociale règne, alors que la richesse créée n'a jamais été aussi importante? Pour cela, il nous faut partir du constat paradoxal suivant. Premièrement, qu'aujourd'hui, on l'a vu, le travail ne paie pas assez, alors que la rémunération du capital explose. Mais la solidarité par les cotisations est en grande partie assise sur les salaires. La caisse automatique qui remplace la caissière au supermarché du coin ne cotise pas à la sécurité sociale. Deuxième point, il existe 10 millions de pauvres sous assistance de l'État, et dans le même temps, l'ensemble du corps social est très riche. 1 600 milliards de revenus primaires, et surtout, plus de 13 400 milliards de patrimoine, rapport entre revenus et patrimoine inégalé depuis la fin du 19e siècle.
C'est choquant.
Alors, comment passer d'une aumône d'État qui assujettit à l'exercice d'un droit universel qui émancipe? Eh bien, je fais référence au philosophe marxiste Daniel Ben Saïd, qui souligne cette impérieuse nécessité de la socialisation d'une part des revenus. Et je le cite. La division sociale complexe du travail devrait permettre une socialisation accrue du revenu et une extension des solidarités. Ce serait le sens d'un revenu universelle garantie, déconnectée du travail, non dans sa version libérale d'une aumône de survie, mais bien dans une logique du droit à l'existence et de l'extension des domaines de gratuité.
Donc émancipateur.
La citation. Alors, comment faire ? Eh bien, premièrement, d'une part, en répartissant mieux la solidarité entre le travail et le capital dans le partage de la valeur ajoutée. Les machines qui remplacent de plus en plus les humains doivent aussi contribuer par une cotisation à l'existence des salariés qu'elles substituent, comme le préconisait déjà Sismondi au début du 19e siècle. C'est pas nouveau.
Est-ce que ça rejoint l'idée
Benoît Hamon?
Oui, voilà, c'est ça.
En 2017, avec la taxe robot.
D'accord.
Deuxièmement, en substituant à la redistribution actuelle, verticale, faite d'aides sociales organisées par l'État, une redistribution universelle horizontale, transformatrice, préventive, inclusive, telle que la préconise Nancy Fraser dans un livre qui s'appelle « La justice sociale ». Qu'est-ce que la justice sociale ? Le tout administré par une branche de la sécurité sociale, puisqu'on a la chance en France d'avoir une caisse commune depuis 1945. Alors, tout ce financement permettrait d'allouer un revenu d'existence inconditionnel et individuel fondé sur ce principe de solidarité universelle. Chacun contribue en fonction de ses moyens en revenus et en patrimoine à la satisfaction des besoins élémentaires de l'ensemble de la communauté. À revenu universel, contribution universelle. Ce revenu dissocié de l'emploi, socialisé, véritable salaire de vie, hein, doit être d'un montant suffisant pour éradiquer tout au long de la vie la pauvreté en se substituant à toutes les aides non contributives, conditionnées, financées par le budget de l'État. Hein. Alors, on peut prendre un exemple si tu le veux
bien.
Oui,
pour être plus concret, oui.
Oui, pour être un peu plus concret. On peut imaginer que l'on peut financer une allocation autour de 900 euros tout au long de la vie, mais, graduelle suivant les âges, hein, qui soit versée suivant les âges. Par exemple, on peut imaginer qu'à la naissance, on donnerait une allocation de 1 800 euros aux parents, qui remplacerait la PAJE actuelle, hein, la prestation pour les jeunes enfants. Ensuite, de 0 à 14 ans, on pourrait imaginer 350 euros. De 14 à 18 ans, 500 euros, tout le tout versé aux parents, ce qui remplacerait à la fois les allocations familiales qui, répétons-le, sont maintenant conditionnées et sont surtout versées à partir du deuxième enfant seulement.
Oui.
Et elles remplaceraient toutes les innombrables aides aux parents qui existent actuellement, qui sont conditionnées. De 18 à 60 ans, 900 euros. Et à partir de 60 ans, 1200 euros. Qui remplacerait avantageusement l'allocation pour les personnes âgées qui est autour de 960 euros actuellement. Voilà. Donc, en moyenne, cela ferait de la naissance à la vie autour de 900 euros par mois.
D'accord.
Voilà. Alors, comment la financer ?
Mais oui, bonne
question. Par une contribution progressive sur tous les revenus d'activité du patrimoine, qui serait, par exemple, de 0 à 30% jusqu'à 2000 euros de salaire brut, puis après 30% ensuite, puis 50% pour la tranche de revenus supérieure à 10 000 euros. Ce n'est qu'un exemple. Hein. Les législateurs, lorsqu'ils se pencheront sur le sujet, pourront en trouver d'autres. Hein. Le premier du mois, on verse l'allocation universelle d'existence, et à la fin du mois, chacun contribue à cette allocation universelle en fonction de son salaire, de ses revenus, et aussi de son patrimoine. On peut imaginer une taxe sur les actifs nets progressive de 0 à 2% par an, de 0 à 3 000 euros de revenus, puis 2% ensuite. Et pour les patrimoines supérieurs à 2 000 euros, ce serait 2,5% par an, ce qui remplacerait, bien entendu, avantageusement ce qui reste de l'impôt sur la fortune avec l'IFI, hein, l'impôt sur la fortune immobilière, qui est ridiculement bas et qui rapporte très peu. Voilà.
J'entends quelque chose qui est plus équitable, en fait, aussi.
Comment ?
En fait, finalement, c'est plus équitable parce que ça permet à chacun d'avoir le minimum vital. Et ça, c'est une base qui n'est pas discutable et qui est légitimée par toutes les raisons.
Le premier du mois, on reçoit inconditionnellement de quoi vivre pendant le mois qui vient. Et à la fin du mois, en fonction de son activité, en fonction des revenus de son activité, de son patrimoine, en fonction de son patrimoine aussi, eh bien, on contribue à cette caisse commune.
Et ça permet aussi d'être suffisamment flexible pour voilà, toutes ces activités qui peuvent changer d'un mois à l'autre.
Bien sûr,
ne pas attendre trois mois que le dossier soit passé. Et encore, s'il ne manque pas une photocopie, ou de pouvoir avoir de quoi vivre. Quoi.
Tout à fait.
Donc ce que j'entends, c'est finalement tout le monde y gagne, sauf peut-être les beaucoup plus riches, mais tous d'accord qu'ils devraient contribuer un peu plus.
Donc j'ai fait une simulation en fonction des revenus et du patrimoine de l'ensemble de la population française, en me fixant sur les données de l'INSEE, eh bien, on s'aperçoit que 95% des foyers fiscaux seraient gagnants dans cette situation. Il y aurait 5% des foyers fiscaux les plus riches qui contribueraient davantage. Mais non, on ne va pas non plus les assommer. Ils contribueraient davantage, point. Ça donnerait aussi du sens à leur contribution, puisqu'elle serait entièrement allouée à la solidarité nationale.
Mmh. Oui, puis ils gardent largement de quoi vivre.
Bernard Arnault, si on lui prend un milliard de plus sur 200 milliards, ça ne va pas changer sa qualité de vie.
Ouais. Je crois. Et puis peut-être que ça lui redonnera effectivement sa place de citoyen.
Absolument. Et on serait heureux de l'avoir parmi nous.
Voilà, c'est ça. Bon, mais alors du coup, avec cette structure, j'entends qu'elle est très détaillée et surtout très appuyée sur les chiffres de l'INSEE. Donc voilà, crédible en fait, quoi qu'on dise. Beaucoup de gens nous disent « Ah, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est complètement farfelu, ça coûte trop cher. » Mais en fait, non, à t'entendre, pas tant que ça.
Non, ça ne coûte rien au budget de l'État, puisque l'État est dispensé de distribuer les aides qui coûtent à peu près l'équivalent de l'impôt sur le revenu. Donc l'État, bon, pour lui, c'est une opération neutre, puisqu'on ne verse plus l'impôt sur le revenu, mais lui non plus ne s'occupe plus de la solidarité d'aider les plus pauvres. Hein. Donc c'est nous qui nous en occupons par une caisse gérée, une caisse commune gérée. Hein. On revient à l'esprit de la sécurité sociale tel qu'il était en 45. Et là, je vais quand même citer quelque chose qui me paraît important, c'est l'exposé des motifs de l'ordonnance du 4 octobre 1945 qui disait ceci: « La sécurité sociale est la garantie donnée à chacun qu'en toutes circonstances, il disposera des moyens nécessaires pour assurer sa subsistance et celle de sa famille dans des conditions décentes. Le but final à atteindre est la réalisation d'un plan qui couvre l'ensemble de la population du pays contre l'ensemble des facteurs d'insécurité. » C'est exactement ce que doit être un revenu d'existence universel et inconditionnel.
Oui, tout à fait. On retrouve l'universalité, l'inconditionnalité. Bon, mais alors du coup, vas-y.
Donc le coût, pour revenir au coût, donc pour l'État, c'est une opération neutre. Et pour les citoyens, c'est comme aujourd'hui, mais de façon universelle, où chacun contribue en fonction de ses moyens. Il y en a qui verront leur situation s'améliorer. Encore une fois, 95% des foyers fiscaux, ce qui est quand même pas mal, pour une mesure sociale. Et puis, quelques-uns devront faire un effort supplémentaire dans cette redistribution horizontale.
Et puis, comme tu disais, une mesure sociale très efficace, contrairement à cette espèce d'empilement de millefeuilles d'aide aujourd'hui, où plus personne s'y retrouve. Même les agents sociaux, on en avait rencontré et reçu ici. Donc, que ce soit les bénéficiaires, rien que le titre. Donc, oui. Et alors, du coup, qu'est-ce que tu attends comme... qu'est-ce que vous attendez comme effet?
Alors, d'abord... pardon. Je suis un petit peu enroué. Hein, cette allocation doit être protectrice. Hein. Par son montant, elle doit immuniser à toutes les étapes de la vie contre la pauvreté et les accidents de la vie. Hein. Et surtout libérer l'individu de la charité publique et privée, car je pense qu'il n'y a rien de plus détestable que d'être dépendant de la charité publique ou de la charité privée.
Non, en termes d'estime de soi, c'est catastrophique.
Oui, absolument. Prenons l'exemple du financement des retraites. Eh bien, ce financement des retraites, où on est en train de se casser la tête depuis je ne sais combien de temps, n'est plus un problème, puisque l'allocation universelle assure à chacun, de façon indépendant de l'activité professionnelle, une retraite de base de 1 200 euros. Ça, c'est une vraie promesse. C'est pas celle de Macron.
Oui, c'est ça.
qui nous avait vanté 1200 euros, mais en fait, c'est pas du tout 1200 euros, c'est conditionné, etc., etc. Elle remplace avantageusement l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui est conjugalisée et conditionnée aux revenus. Hein, si je prends l'exemple de mes parents, bien, ma mère n'avait pas droit à l'ASPA parce que
elle n'avait pas été déclarée.
Elle avait un patrimoine de son commerce, et puis elle avait la pension de reversion la petite pension de reversion de son mari. C'est tout. Hein. Donc là, on a 1200 euros par personne hein, quand on est à la retraite, indépendamment de sa carrière professionnelle, de ce que l'on a fait dans sa vie.
Hein. 1075 ans.
Point. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, hein, les retraites brutes moyennes est de 1924 euros pour les hommes et elle est simplement de 1145 pour les femmes.
C'est impressionnant.
Donc on le voit, les femmes sont en dessous de ce minimum de 1200 euros en moyenne. Donc déjà, on corrige l'inégal accès au marché du travail et les inégalités de genre des salaires et des carrières professionnelles. Secondo, il suffirait d'y ajouter une retraite rétributive financé par les cotisations, un seul régime de retraite suffirait pour compléter cette retraite de base de 1200 euros. Donc ça permettrait d'alléger les cotisations sur les retraites au lieu de les alourdir comme actuellement. Hein. Et par exemple, de faire passer une partie des cotisations qui ne seraient plus versées pour les retraites puisqu'elles ne seraient plus nécessaires hein, vers les cotisations, d'augmenter les cotisations sur l'assurance maladie qui en a bien besoin à l'actuelle. On a vu dans quel état et l'hôpital aujourd'hui, et on pourra aller vers une couverture maladie universelle à 100%. Donc on voit bien que déjà les conséquences sur la protection sociale eh bien, sont très 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 positives.
Hein. Oui, parce que ce que j'entends aussi, c'est tout un système autour des retraites qui est aux antipodes du système des fonds de pension aujourd'hui, puisque on assiste à l'entrisme des fonds de pension dans notre système, cotisé, oui, mais à perte et à risque. On a vu aussi la crise de 2008 aux États-Unis, c'est dû notamment aux fonds de pension et leurs investissements complètement toxiques. Donc là, ce que j'entends, c'est que c'est non seulement un système universel, beaucoup plus simple, beaucoup plus égalitaire, donc il y a une base égalitaire, il y a une
base
équitable. Et puis à partir de là, en même temps sécurisé entre les générations, puisque les générations cotisent pour la suivante et reçoit ce qu'elle a semé finalement. Donc on retrouve, comme tu l'as, enfin je te remercie de ce rappel et d'avoir relu cette intention de la sécurité sociale pour redonner un petit peu ce souffle. Aujourd'hui, on n'est plus à essayer de réduire les reculs progressifs, mais on a une ambition et on peut faire mieux et on peut faire plus simple et on peut faire plus efficace.
Oui, encore une fois, et non, très efficace au niveau, et surtout ça permet de reconfigurer l'ensemble de la protection sociale, de reconfigurer le système des retraites, de reconfigurer la couverture maladie et d'aller vers la couverture maladie universelle à 100% et d'en finir avec ces complémentaires, hein, ces mutuelles. Qui n'assure pas en fonction des moyens de chacun, mais en fonction des risques et de l'âge.
Il faut rappeler des bénéfices qu'elles veulent faire.
Voilà, il faut rappeler quand même qu'un retraité aujourd'hui, non seulement il paye la CSG, hein, mais il paye aussi une cotisation retraite du mutuel qui est très importante, hein, de 150 euros, voire plus, hein, par mois. Donc quand vous avez une petite retraite de moins de 1000 euros et que vous devez payer une mutuelle à plus de 100 euros, ça fait mal.
Ouais, c'est pas possible.
Voilà. Alors ça, le premier effet, c'est donc la protection.
Alors, je vais te proposer une petite pause musicale avant le deuxième exemple. On va écouter l'Église de la Très Sainte Consommation qui, il y a quelque temps, nous avait fait une petite parodie dans Bienvenue chez les Riches. C'est de la dérision un petit peu, hein, forcément.
Okay.
Allez, à tout de suite.
Ma ville atropésienne, jusque dans ton manoir à Londres, notre réalité est la même. Et chez nous, la révolte gronde. Qui sait qui fait rêver les masses? grâce à l'artisanat chinois. Ici, on nous assomme de taxes, alors que c'est nous qu'on crée l'emploi. PDG, trader et rentier, à tous les riches du monde entier, votez pour nous et vous verrez, on s'occupera des assistés. Maintenant, fini les vacances, salariés, allez tous debout, faut se sacrifier pour la croissance. Un seul mot d'ordre, résignez-vous.
On lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien. On lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien, on lâchera rien.
On vous parlait de tout changer, et comme des cons vous y avez cru. Oligarchie, fais-moi rêver, démocratie c'est révolu. Alors votre bulletin de vote, filez-le donc à nos banquiers. Ils ont le gel et la capote pour vous placer sans trop risquer. C'est bien connu, la vie de l'homme peut se résumer en trois mots. Travail, obéis, consomme, et puis ben direct au caveau. Allez français, on s'entretue pour un job de rêve à Carrefour, pour qu'on se fasse un max de thunes. Un seul mot d'ordre, résignez-vous.
On lâchera rien, on lâchera rien.
Et voilà, c'était l'église de la très sainte consommation il y a quelques années déjà, vu que ce clip date d'il y a 10 ans.
Ouais.
Voilà.
Mais c'est toujours, toujours actuel. Bon Guy, tu étais en train de nous lister les effets, les plutôt protecteur. Beaux effets protecteurs qui sont attendus de l'allocation universelle d'existence.
Alors, il y a aussi, et surtout d'ailleurs, les effets émancipateurs. Alors, j'aime bien citer Jean-Marie Haribet de l'organisation d'Attaque, qui est contre le revenu de base, mais qui dit quand même la chose suivante. Le travail est vital dans un double sens. Vital pour produire les conditions concrètes d'existence, et il est aussi vital pour se produire soi-même au sein d'un collectif social et culturel. Tout à fait, Jean-Marie Haribet. Il s'agit, avec cette allocation d'existence, de socialiser le premier objectif, c'est-à-dire assurer les conditions concrètes d'existence, pour que chacun puisse se consacrer pleinement au second, qui est de se réaliser socialement, de s'épanouir dans une activité choisie. Vous voyez ? Donc
ça.
Ce véritable salaire socialisé, dissocié de l'emploi individuel, permet d'aller vers la civilisation du temps libéré, cher à André Gorz, avec un meilleur partage des emplois et une réduction drastique du chômage, avec la semaine de 4 jours, par exemple, et 28 heures par semaine, déjà dans une première étape. Pour cela, lorsqu'on est au SMIC, on doit pouvoir, avec le revenu universel, gagner plus en travaillant moins pour vivre mieux. Et là, dans mon bouquin, tu l'as vu certainement, je prends l'exemple de la semaine de 4 jours et je montre comment un SMICard, à 4 jours, avec ce revenu universel de 900 euros, gagnera plus qu'aujourd'hui, en 5 jours, sans revenu universel.
Alors, qu'on soit clair pour éviter tout malentendu, parce que je connais des entreprises qui veulent pousser leurs employés à se mettre à 4 jours, mais en gardant le même nombre d'heures, ce qui évidemment n'est pas
sûr.
Ce qu'on appelle la semaine de 4 jours.
Non.
Donc c'est bien une semaine qui serait à 32 heures, en tout cas c'est...
Heures.
28, ah bah tu vois.
28 heures, 4 fois 7, 28.
Et ce qui serait largement suffisant parce qu'on est très productif. Et un petit point aussi pour Jean-Marie Haribet que nous aimons tous en attendant qu'il comprenne un petit peu la petite nuance qu'on lui propose de voir, c'est la différence entre travail, emploi et activité. Donc
bien
oui,
sûr.
Le travail est émancipateur, l'emploi pas forcément.
Pas forcément.
Je pense qu'on est un certain nombre à le savoir. Et surtout, enfin, c'est la différence et la difficulté de passer du travail subi au travail choisi. Et
exactement.
Moi, j'ai plein d'activités dans ma vie qui sont complètement choisies, dont mon travail. Comme toi, je dis effectivement que j'ai aussi de la chance, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et il y a plein d'activités qui sont très productrices au-delà de l'emploi. Donc voilà, je voulais reclarifier ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu.
Absolument, tout à fait.
Sur tes propos.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis, réduire la semaine de travail à 28 heures, c'est aussi donner du temps, du capital temps aux personnes. C'est aussi lutter contre le réchauffement climatique, parce que quand on a du temps, d'abord, on se presse moins. Si on se presse moins, on peut employer des moyens de transport beaucoup plus économes. Et puis, on a moins de déplacements à faire puisqu'on ne travaille que 4 jours au lieu de 5 jours. Donc, il permet aussi, ce revenu universel, d'envisager une transition écologique vers un monde plus frugal, à la fois respectueux des êtres humains comme de l'environnement et surtout des ressources terrestres.
Oui, respectueux de notre rythme, respectueux de nos liens aussi. On a déjà abordé ici, dans la saison précédente, le fait que gagner du temps, ça serait aussi prendre soin de soi, prendre soin de ses enfants, de ses parents. Et ça, c'est des activités qui ne coûtent rien, qui ne ramènent rien financièrement, mais qui sont d'une richesse humaine extraordinaire. Voilà.
Très utile pour la société. Il doit offrir la possibilité à chacun, justement, de faire les choix les plus pertinents, à la fois pour soi-même, pour la collectivité, tant dans son rôle de producteur comme celui de consommateur. Mmh. Imaginez un couple de jeunes paysans aujourd'hui, s'ils avaient le revenu de base, s'ils avaient 900 euros chacun, tous les deux, l'un des deux ne serait pas obligé de prendre un travail salarié complémentaire à la ville pour pouvoir assurer l'existence du foyer. Peut-être qu'il pourrait faire une agriculture plus qualitative parce que, justement, il serait moins dépendant des rendements de leur petite propriété.
Sans doute qu'il se suiciderait moins.
Voilà, il se suiciderait moins. Et puis, il pourrait peut-être employer une troisième personne, peut-être à mi-temps, justement parce que cette troisième personne pourrait se satisfaire d'un mi-temps parce qu'elle aurait le revenu universel pour les aider dans des tâches complémentaires. Donc la qualité de vie de ce couple de paysans serait infiniment plus importante avec ce revenu universel qu'elle l'est aujourd'hui. Quand la vie n'est plus soumise au chantage de l'emploi et de l'argent, le revenu universel permet de se libérer d'une économie productiviste, nocive pour l'environnement, pour aller vers une économie beaucoup plus qualitative. Là, je terminerai ce point en citant Philippe Van Parijs, que tu connais certainement, qui est philosophe, qui est fondateur du Basic Income Earth Network. Il dit cela, et c'est très juste, il s'agit de construire un état social qui mise intelligemment sur l'épanouissement du capital humain plutôt que sur l'astreinte d'un emploi non choisi. Et bien là, tout est dit.
Je te remercie parce que grâce à toi, j'ai l'impression qu'on a une vingtaine d'invités en même temps dans le studio.
Ah bon ?
Toutes les citations, c'est comme s'ils étaient invités et qu'ils participaient à l'émission.
Ouais. Voilà. Alors, il y a une contre-vérité aussi, qui, pour terminer sur ce point, qu'il faut tordre. C'est celle qui dit que les pauvres seraient oisifs. Que si on leur donnait un revenu d'existence, eh bien, ils ne resteraient devant leur télé toute la journée. En fait, c'est le système actuel qui rend les pauvres oisifs, ou plutôt qui rend les pauvres exclus du système productif. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes au RSA et que vous voulez prendre un travail, ne serait-ce qu'un travail à mi-temps, eh bien, vous allez perdre 45% de vos droits.
Oh, c'est incroyable.
Si vous devez, pour faire ce travail, faire 20 km en voiture, donc, consommer de l'essence, si vous devez vous acheter de quoi bien vous habiller, si vous devez prendre quelqu'un pour garder vos enfants, eh bien, ça vaut pas le coup d'aller travailler.
Tout à fait.
Ça vaut pas le coup d'aller travailler. Tandis qu'un système où les revenus du travail s'ajoutent aux revenus de base vous incite au contraire d'aller travailler. Et je voudrais citer quand même un exemple que donne Roger Bregman dans Utopie réaliste. Je ne sais pas si tu connais ce livre.
Oui, magnifique livre que je conseille à tout le monde.
Oui, qui est sous-titré « En finir avec la pauvreté ». Il cite un exemple extrême, et je le cite. « Au Liberia, une expérience a été menée pour voir ce qui arriverait si on donnait 200 $ aux plus pauvres. On est allé chercher des alcooliques, des toxicomanes, de petits délinquants dans les bidonvilles. » 3 ans plus tard, à quoi avaient-ils dépensé leur argent ? À se nourrir, à s'habiller, à se soigner et à créer de petites entreprises. Si ces hommes n'ont pas gaspillé leur argent, s'interroge l'un des chercheurs, qui le ferait ? Voilà un exemple, et il y en a des tonnes dans ce bouquin, qui montre que l'inconditionnalité, au contraire, est une assurance et vous renforce dans votre envie de vivre, en fait.
Mais oui, j'ai envie du coup aussi de rappeler que, alors évidemment, on n'était pas encore nés, mais au moment de l'abolition de l'esclavage, on a eu le même discours sur les esclaves. Au moment des premiers congés payés, pareil, les ouvriers allaient forcément boire et sombrer dans l'inaction, parce que l'oisiveté est mère de tous les vices, bien sûr. Pareil pour le droit pour les femmes d'avoir leur propre compte. Donc jusqu'où va-t-on aller pour prouver, et je vous renvoie évidemment pour nos auditeurs sur le site revenudebase.info, la carte des expérimentations, où vous verrez qu'effectivement quand on fait confiance aux gens, non seulement ils l'utilisent bien, et en plus ils l'utilisent de la façon la plus ajustée pour eux, parce que c'est les meilleurs experts de leur propre vie, en fait. Ça a l'air évident, mais... Dans plusieurs expérimentations, ils se sont même rendus compte que le coût des agents sociaux était à relativiser, parce que une grande partie de leur activité consistait plus à éponger le mal-être des gens plutôt que vraiment les accompagner. Donc on pourrait effectivement faire plus confiance et économiser aussi là-dessus. Bon, alors du coup, la suite.
Oui.
Petite pause musicale. Alors, hop, c'est parti. Je vous propose une chanson de Bistanclac qui s'appelle Consomme. C'est parti.
Du centre-ville au quartier, des campagnes aux bourgades, l'idée qu'il faut bien s'habiller fait son travail en brigade. On ne porte que de la marque qu'on arbore fièrement. On croit même qu'on se démarque alors qu'on vit conformément au modèle d'une vie sans autre chose que du futile qui engraisse les puissants. Ceux qui imposent leur style, qu'est-ce que l'on peut bien prouver en Lévis et en Lacoste. Moi j'arpente le pavé avec un polo Laposte, ça donne de quoi discuter. Plutôt que de parler du ciel, une voix, une facilité face au vide existentiel. Bonjour, moi c'est Calvin Klein, aujourd'hui moi c'est champion et à part ça tout va bien. On est tous les mêmes pions, certains pions n'ont pas l'argent pour faire comme les vrais bourgeois, accéder au bonheur marchand qui procure tant de joie. Ils se servent directement et les vitrines explosent, c'est plus drôle assurément, mais c'est quand même le respect de la clause qui dirige la population dans leurs ambitions faussées, la plongée dans l'obsession de ne jamais être dépassé. Sainte nouveauté que la religion des marchands doit sans cesse réinventer pour que l'on ne devienne pas méchant. Pour qu'il n'y ait que la mode comme facteur d'identité, que tous nos gestes, tous nos codes, à ce que l'on possède soient limités. C'est une pieuse mission, acheter doit devenir un réflexe, ou alors c'est l'exclusion, tu seras mis à l'index. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Quand tu deviens adulte mature, ce ne sont plus les nouveaux vêtements, mais la nouvelle voiture. Il te faut te renouveler, renouveler ta pâture, car ta personnalité se trouve dans l'armature de ton signe de pouvoir, aux quatre jantes chromées et de ton bel objet de foire. Que jalouseront les paumés, à force de consommer frénétiquement, on finit par transformer jusqu'à l'amour les sentiments. Tu me parles, tu m'ennuies, je te zappe avec mon portable. Mes amis sont des produits et dépendent de mes humeurs instables. On consomme du relationnel, chaque bonheur est biaisé, même les plaisirs charnels doivent être rentabilisés. Il est là l'homme nouveau, l'homme unidimensionnel, qui se sert de son cerveau comme du dernier logiciel, qui a pour seule ambition de posséder du bien matériel, seul facteur d'intégration au mode de vie officiel. L'homme du troisième millénaire sera le consommateur frustré, envieux, actionnaire, un con, un saut, un mateur. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme. Nous ne sommes que la somme de tout ce que l'on consomme. Écoute donc, on te somme de faire le grand somme. Ils font de la com et du gros son, tout pour que tu consommes. C'est un homme si t'es un homme, si t'es un homme, consomme.
C'était Renaud Bistan sur les ondes de Radio Campus 106,6 pour cette émission Tous Essentiels, l'émission consacrée aux revenus de base avec aujourd'hui Guy. comme invité.
Et Guy qui nous a fait languir, qui nous a alléché avec un projet de société extraordinaire. Mais alors Guy, la prochaine question, c'est les prochains pas. Par quoi on peut commencer? Parce que là, tout de suite, maintenant, comment dire, le contexte politique n'est pas complètement ouvert. Donc si on pouvait faire des petites étapes, ce serait lesquelles?
Ben oui, hein, la question qu'on se pose tous, c'est comment, hein. Eh bien, écoutez, si on regarde l'actualité, on parle des problèmes des retraites, soi-disant, qui ne s'est pas financé, etc. Eh bien, on pourrait imaginer, hein, on peut prendre au mot notre cher président, qui voulait, soi-disant, installer une retraite à 1200 euros, une retraite minimale à 1200 euros.
Il paraît,
hein. Eh bien, moi, je lui propose de le faire immédiatement. Il n'y a pas de problème. On peut donner 1200 euros à tous les retraités à partir de 60 ans, c'est-à-dire pour 18 millions de personnes. Hein. Eh bien, 1200 euros pour 18 millions de personnes, c'est 260 milliards d'euros. Bon.
Wow.
Eh bien, c'est exactement ce que représenterait une cotisation, une taxe sur les actifs nets de 2%, c'est pas énorme, par an, sur l'ensemble de la population. Donc, cela permettrait à ceux qui ont un patrimoine, donc ceux qui ont déjà une petite retraite avec ce patrimoine, quelque part, qui ont une assurance vie avec ce patrimoine, de contribuer, hein, à la solidarité pour ceux qui n'en ont pas, justement, hein, et d'assurer à tout le monde cette retraite de base de 1200 euros. Bien, on peut le faire dès à présent. Hein, ça ne coûterait rien encore, si ce n'est un petit peu de solidarité de la part des plus riches vers les plus démunis. Voilà.
Bon, donc voilà, problème des retraites, nous on a réglé. Problème suivant.
Oui. Non, mais on a réglé en partie. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permettrait d'alléger le système des retraites par répartition, justement, puisqu'on serait déjà assuré d'avoir 1200 euros.
Hein. Mais oui.
Donc on pourrait, au contraire, l'alléger au lieu de le contraindre comme on le fait actuellement. Deuxième piste, les jeunes de 18 à 25 ans sont ceux qui bénéficient le moins des aides sociales.
Oui.
Le RSA, ils n'y ont pas droit. Bref, ils ont droit à très peu d'aides, en réalité.
Oui, on a vu que c'était très conditionné, parce qu'ils sont renvoyés à la solidarité familiale.
Or, c'est certainement l'étape de la vie qui est la plus fondamentale, hein, qui détermine le futur de l'ensemble des personnes, hein, cet âge 18-25 ans. Donc, si on pouvait mettre en place, de la même façon, un revenu universel de 900 euros à partir de 18 ans jusqu'à 25 ans, eh bien, ça permettrait peut-être à certains de faire des études alors qu'ils n'en ont pas la possibilité aujourd'hui. Ça permettrait à certains de voyager, hein, ça permettrait à d'autres de faire des expérimentations, de choisir des métiers,
de s'installer, parce que, d'avoir un logement, tout simplement. Oui.
Voilà, ça permettrait de faire, d'assumer des échecs aussi. Hein.
Mmh.
C'est important aussi, ça permet
d'oser
de
prendre des risques.
Voilà, de prendre des risques, etc. Et petit à petit, entre 18 et 25 ans, en se formant, en faisant des expériences, eh bien de choisir quel va être son chemin de vie. Voilà.
C'est vrai que c'est un âge où on a plein d'idées, on a plein d'énergie,
oui,
on a plein de créativité,
mais
et c'est souvent gâché.
Mais on n'ose
pas
les mettre en œuvre.
Oui, parce qu'il y a la sécurité en jeu, quoi, bien sûr.
Mais oui, parce qu'on n'a pas, l'assurance nécessaire pour les mettre en œuvre.
Plus la peur des parents.
etc. Bon, de plus, souvent, on est contraint de continuer à vivre chez ses parents de façon dépendante, ce qui n'est pas non plus une bonne solution pour
la vie affective, notamment.
Oui, exactement. Donc voilà, deux pistes. Hein. Soit un revenu de 18 à 25 ans pour les jeunes, soit une retraite de base de 1200 euros pour les personnes âgées. Ça permettrait d'ancrer cette idée, hein, d'un revenu inconditionnel dans la tête des gens, et peut-être pour plus tard passer à l'étape suivante, qui est de la généralisation de ce revenu universel de la naissance à la mort.
Ben oui, on pourrait faire des expérimentations aussi.
Alors, oui. Les expérimentations, le problème des expérimentations, c'est que à l'heure actuelle, c'est compliqué, hein, parce que les communes ou les communautés de communes n'ont pas une autonomie fiscale. Hein. Donc, il faut essayer d'imaginer un système qui permette, hein, par exemple, sur une commune, ou sur une communauté de communes, qui sera à peu près représentative de la distribution des richesses de l'ensemble de la France, hein, eh bien, il faudrait prendre foyer fiscal par foyer fiscal, et pour chacun des foyers fiscaux, donc recenser toutes les aides sociales qu'ils reçoivent actuellement, recenser les impôts pour ceux qui en payent, qu'ils payent actuellement, et par exemple, de mettre toutes ces aides sociales dans un fonds communal, qui permettrait de payer les impôts des foyers fiscaux qui payent des impôts à l'État, ce qui ferait que pour l'État, ça serait complètement transparent, ça serait une caisse de compensation, en fait. Et puis après, au niveau de cette communauté de communes, de mettre en place un revenu universel entièrement financé par les citoyens de cette communauté de communes, vous voyez ? Donc de façon autonome, par une caisse commune, qui permettrait de financer ce revenu universel. Alors, pour pouvoir mettre en place cette expérimentation, il faudrait d'abord faire une simulation, c'est-à-dire prendre foyer fiscal par foyer fiscal, voir actuellement, encore une fois, quelle est leur situation réelle, et de simuler quelle serait leur situation si on allouait à ces personnes 900 euros par mois, et tant pour les enfants, etc., etc., et qu'ils contribuent, en fonction du système que j'ai indiqué tout à l'heure, à cette caisse commune. Bon, et voir foyer fiscal par foyer fiscal, ceux qui seraient gagnants et ceux qui seraient contributeurs. Voilà.
Donc, en attendant la loi d'expérimentation que M. Macron nous refuse, malgré ses promesses de flexibilité, on peut effectivement, donc on lance un appel, hein, tous les quartiers ou toutes les petites villes qui voudraient se tester, on peut au moins déjà faire la simulation.
Oui.
Et puis après, après peut-être, voilà, il y aura politiquement une demande suffisante pour avoir une loi d'expérimentation et pouvoir tester. Pour de vrai, je renvoie à la discussion qu'on a eue avec Clément Cayol le mois dernier sur l'expérimentation à Grande-Synthe, où nous avait effectivement parlé des limites de ces expérimentations locales. Mais voilà, pourtant très, très riche déjà, mais voilà. Donc une expérimentation
Mais déjà, on pourrait déjà faire la simulation, c'est-à-dire pour ces foyers qui accepteraient de participer à cette simulation, voir exactement ce que ça changerait pour eux, hein, au niveau des revenus du foyer fiscal, si on mettait en place ce revenu universel tel que je l'ai décrit tout à l'heure. Et on peut le faire très facilement.
J'en profite pour dire que sur ton site, donc Guy Vallette Paris, il y a justement un simulateur. Donc, alors le site s'appelle La Science du Partage. Donc j'invite tous nos auditeurs et auditrices à aller se tester. C'est-à-dire vous rentrez vos chiffres à vous et puis vous voyez avec l'allocation universelle d'existence si vous y gagneriez, si vous y perdriez, combien et de façon très concrète là pour le coup individuelle. Donc commencez déjà chacune. Là vous aurez une idée très très réaliste des choses et puis on lance un appel si un collectif voulait essayer une simulation plus globale, contactez le MFRB, demandez Guy Vallette, et puis on se chargera de vous accompagner là-dedans. Ça peut être vraiment très, très intéressant en termes de, non seulement de sensibilisation, mais de façon concrète, voir déjà les résultats d'avance, ce qui pourrait même peut-être nous dispenser d'une expérimentation pour la prochaine présidence, si on choisit évidemment bien la suivante ou le suivant, pour voir passer directement à l'étape généralisation, moi je propose. donc d'ici la prochaine mandature, voilà, on simule et puis on jouit de la vie concrètement dès qu'on peut. tu voulais rajouter un point,
je vais faire une petite conclusion, je ne sais pas si je peux la faire maintenant.
Oui, il nous reste une petite dizaine de minutes. Donc, tu vois, avec la chanson de fin, t'as au moins 5-6 minutes pour faire ta conclusion.
D'accord. Donc, oui. Alors, pour conclure, disons, cette petite présentation, je dirais que, d'abord, il faut bien le répéter, hein, contrairement à ce qu'on nous raconte comme contre-vérité, il n'en coûterait rien au budget de l'État. On ne change pas globalement la profitabilité des entreprises non plus. On renforce les budgets des différentes branches de la sécurité sociale. Tout cela grâce à ce principe de solidarité universelle qui ne demanderait qu'un effort supplémentaire à 5% des foyers fiscaux les plus dotés en revenus comme en patrimoine. Avec un meilleur partage des emplois, par une réduction du temps de travail rendu possible, le chômage diminuera. Avec cette assurance retrouvée, la possibilité de choisir ses activités, sa profession, le stress diminuera. L'usage de béquilles médicamenteuses, des addictions, les accidents, les maladies professionnelles seront moins fréquentes et aussi les dépenses de l'assurance maladie diminueront. Donc c'est bénéfique, hein, c'est un véritable investissement pour la société. Hein. Et je crois qu'après la crise sanitaire de 2020-2022 qui a révélé aux yeux de tous les dégâts de 40 années d'abandon du bien commun, l'ensemble des forces sociales ne peuvent continuer à être spectatrices de leur propre anéantissement. Il faut être force de proposition pour se réapproprier ce qui doit nous être le plus cher, l'exercice d'un droit à une vie digne en toutes circonstances. Alors, face aux mutations en cours dans le monde du travail comme aux défis environnementaux à surmonter dans les années à venir, faire de la diversion, continuer de temporiser, de ne pas s'attaquer à une réforme systémique de la protection sociale est totalement irresponsable. Cette nouvelle sécurité sociale universelle peut et doit constituer le premier dénominateur commun d'un programme de gouvernement. Encore faut-il qu'elle permette à toutes et à tous de s'affranchir de la charité publique qui vous oblige. Car il ne peut y avoir de liberté ni de démocratie réelle sans égale considération, sans égalité des droits humains et sans la solidarité des uns envers les autres pour garantir l'égale participation à la vie sociale et politique de l'ensemble des citoyens. Hein, pour pouvoir choisir, pour pouvoir agir tant qu'il est encore temps avant d'être contraint de manger que du malheur. Voilà ce que je voulais dire en conclusion. Eh bien, il nous reste maintenant à porter le message et je remercie Radio Campus de le faire au niveau de Lille. Merci.
Et même plus largement, parce que les ondes vont larges et puis vous retrouverez...
Oui, elles n'ont pas de frontières.
C'est ça. Et vous retrouverez le podcast sur le site revenudebase.info. Donc j'ai envie de te citer pour une ultime conclusion. Il y a une partie de ton livre, le chapitre 9, que tu as intitulé « Pour assurer nos retraites ». Soyons réalistes, assurons l'existence. Et je trouve que c'est par rapport à la mobilisation actuelle et cette confrontation entre l'égalité et légitimité, on a vraiment une posture à avoir d'arrêter d'être sur la défensive. Voilà, on est force de proposition. C'est nos bras, c'est nos enfants qui font la richesse qui font la productivité, qui font la richesse humaine aussi. Donc je vous rappelle le nom du blog de Guy Vallette qui s'appelle La science du partage. Donc Guy Vallette Paris sur WordPress. Et si vous tapez simulateur, vous pourrez vous tester vous-même et savoir très concrètement avec votre allocation universelle d'existence. Qu'est-ce que ça changerait pour vous ? Et après, ce que vous en ferez, c'est votre sécurité, c'est votre liberté. Merci beaucoup, Guy. C'est très précieux de t'avoir. Et on se retrouve bientôt pour l'Assemblée Générale du MFRB.
Absolument. Merci à vous.
Pour ces 10 ans. Merci, Guy. Merci bonne journée à toi.
Merci beaucoup.
À bientôt.
Et sans doute, on a encore vu qu'il nous reste quelques minutes, on peut quand même faire un peu de publicité pour le mouvement français pour le revenu de base, dis-moi.
Oh mais oui.
Allons-y.
Alors, comme je disais, on fête nos 10 ans cette année. Et donc, on se projette que dans 10 ans, on aura un revenu de base. Parce que ça commence à bien faire, ces histoires. On en a un peu marre. Donc, ça fait 10 ans qu'on le défend. Ça fait 10 ans que différentes structures politiques s'en sont emparées. Il y a le Sénat, il y a l'Assemblée nationale, ils en ont parlé. Donc, on a eu Benoît Hamon, évidemment, au présidentiel. Donc, politiquement, c'est viable, on le sait. Ça a été appuyé par différents agents de la société civile. Il y a ATD qui en a parlé. On a aussi le Conseil national du numérique qui l'a promu comme un support de transition à toutes les mutations du travail dont Guy nous a parlé. On a les décroissants qu'on verra le mois prochain. prochains et qui vont nous prouver que oui, c'est un outil de transition écologique. Donc on se dit, bon là maintenant, on a fait l'épreuve de tout, il y a des expérimentations partout, vous pourrez retrouver sur le site. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour passer passer à l'œuvre, quoi. Maintenant, il faut qu'on agisse et avant que d'autres personnes n'en souffrent, d'autres personnes ne meurent, des personnes qui meurent voilà, à 40 ans ou comme le papa de Guy à 50 du travail. Donc voilà, maintenant, il est temps de passer à l'acte et le MFRB, ben, il est là pour accompagner, sensibiliser, pourquoi pas soutenir les projets. Vous voyez, par cette saison de versions, qu'il en existe un certain nombre. Donc, une fois que vous êtes d'accord avec l'idée du revenu de base, mais tout est à faire encore. Il faut choisir quelle version vous voulez, petit premier pas, le plus petit pas possible, on peut commencer. Et on retrousse ses manches et on y va, quoi. Donc, rejoignez-nous et on en discute et on voit par quel bout on le prend.
Eh bien, écoute, parfait. Guy, si tu es encore là, est-ce que tu as une version favorite ?
Version favorite de quoi ?
Du revenu de base ?
Eh bien, la mienne.
Ah bah forcément.
L'allocation universelle d'existence.
L'allocation universelle d'existence. C'est-à-dire, en fait, non, le principe, c'est... Moi, je tiens beaucoup à une version qui s'appuie sur la solidarité universelle. Bon, il existe d'autres possibilités de financement, hein, comme la création monétaire, comme la taxe sur les échanges monétaires, etc., etc. Mais je pense qu'il faut garder... Hein, comme point fort, la solidarité des uns envers les autres. Parce que c'est ce qui fait une société inclusive.
Et il me semble aussi que par rapport à d'autres versions, c'est aussi une solution qui est structurelle, en fait. Et qui donc voilà. En tout cas, qui met beaucoup de chance de son côté pour être pérenne. Parce qu'elle est systémique, voilà. C'est pas juste une création qui pourrait évoluer, c'est tout un système. Après, à nous, évidemment, de le mettre en place et de continuer à le défendre après.
Absolument.
Bon, eh ben, vu qu'il ne reste plus que 2-3 minutes, je te propose une toute dernière chanson pour terminer. Et puis, vu que c'est le mouvement à la mode du moment, à la retraite, c'est une parodie des Goguettes en trio, mais à 4. Vous allez reconnaître sans doute quelques notes d'Yves Montand là derrière.
Bonne semaine
à tous. Bon mois à tous d'ailleurs. À bientôt, au revoir.
À bientôt.
Quand on pouvait, bon an, mal an, partir à l'âge de 60 ans, à la retraite, on mettait son plus beau costard pour faire honneur au pot de départ où l'on nous offrait par égal une épuisette. On pouvait partir en croisière, aller pêcher dans les rivières, truite et ablette. On en profitait pleinement avant de devenir impotent, grabataire et incontinent, arthrose, diabète. Aujourd'hui c'est moins folichon et l'on nous monte le bourrichon sur les retraites. D'après des experts avertis, certains sont beaucoup trop nantis et faut faire des économies. Fini la fête. On a été bien trop coulant de Léon Blum à Mitterrand. Ce qu'on était bête. On ignorait que le progrès, c'était de bosser sans arrêt. Qu'on n'était pas là pour se marrer. C'est la compète. On croyait même que le bonheur, c'était de faire les 35 heures. Arrête Cosette. Sache que le travail, c'est la santé, c'est pas de prendre des RTT. Et puis la pénibilité, c'est obsolète. Désormais, votre seul avenir, c'est de turbiner sans mollir. Baissez la tête. Au lieu de mourir au champ d'honneur. flamme, c'est devant l'ordinateur. L'entreprise offrira des fleurs et adieu la retraite.